France Culture, la série musicale. Zoé Sfez.
Jamais âme juste ne passe par ici.
Qui que tu sois, ombre ou homme de chair, aie pitié de moi. Et j'entrai dans le chemin difficile et sauvage.
France Culture, la série musicale, Zoé Sfez. Bonjour et bienvenue dans une émission toujours libre de tous les récits, de tous les partis pris. Une émission parfois littéraire, mais qui est toujours une heure de radio sur la musique. Et en musique, c'est la série musicale, bienvenue. Ô sublime clarté qui dépasse tant les concepts mortels, qui concède à ma pensée encore un peu de ton être apparent, fais que ma langue soit éloquente assez pour qu'une étincelle à peine de ta gloire au peuple futur elle puisse laisser, car à faire retour sur ma mémoire, à faire quelque peu résonner mes vers, on concevra d'autant plus ta victoire. Dante Alighieri, il y a désormais 704 ans exactement, a, depuis quelques lieux de Toscane, changé, bouleversé l'histoire de sa langue, l'italien, qui est en l'occurrence le toscan, mais aussi celle de la littérature mondiale, avec cette œuvre baptisée dans un premier temps la comédie tout simplement, et qui paraîtra en 1355, c'est-à-dire il y a précisément 675 ans, sous le titre de la Divine Comédie. Une œuvre titanesque, une œuvre fondatrice qui a désormais un âge si canonique qu'elle pourrait apparaître très 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 loin de nous. Un poème en 3 cantates, chacune composée de 33 chants, qui raconte le voyage, le périple, la réflexion du narrateur, qui n'est autre que Dante, à travers les 3 sphères supraterrestres, l'enfer, le purgatoire et le paradis, qui le conduiront jusqu'à la vision de la Sainte Trinité. Un texte dont on a déjà énormément parlé sur cette antenne, un texte qu'on peut découvrir dans une version traduite en français depuis 3 ans, qui est sans doute à la hauteur du texte original, c'est la traduction de Daniel Robert. Un texte qui a surtout, et qui continue, d'inspirer de la musique sous des formes complètement différentes, de la musique et quelle musique ? On le voit cette année avec l'arrivée au répertoire de l'Opéra de Paris d'un nouvel opéra, Il Viaggio Dante, un opéra que vous pouvez découvrir jusqu'au 9 avril au Palais Garnier et que vous pourrez retrouver en fait tout au long de la vie de l'Opéra de Paris, puisque s'il entre au répertoire, ça veut dire qu'on le reverra, cet opéra. Un opéra composé par Pascal Dussapin, qui tente une nouvelle relecture de cette Divine Comédie de Dante en à peine 1h50. Il n'est pas le premier, loin de là, Pascal Dussapin, à s'attaquer à cette œuvre de manière musicale. Elle a été citée, reprise, elle a fonctionné comme une inspiration, comme une base matricielle pour toute une foule d'œuvres musicales, et ce, depuis finalement la parution presque originale de l'œuvre de Dante. Pourquoi ? Parce que la Divine Comédie, c'est à la fois un voyage intérieur, rappelons que Dante est quasiment le premier littérateur à dire « je », cette matière littéraire mais aussi philosophique qui produit des images, des figures, des sons, une partie très littéraire qui appelle très clairement à la production de sons, de couleurs, de textures, mais aussi parce que c'est une structure, vous l'avez entendu, inébranlable, presque mathématique, qui fait écho à des recherches, par exemple, en matière de musique électronique, mais aussi parce que on serait tenté de faire le même trajet que Dante, qui, guidé par son héros Virgile, écrit ce texte, la Divine Comédie, en se plaçant dans la lignée des auteurs et des grands mythes antiques, puisqu'on croise tous les personnages, notamment de la guerre de Troie, tout en fondant la modernité, ce qui plaît toujours, évidemment, à bien des compositeurs, des compositrices qui veulent montrer leur place dans la grande histoire de la musique. Une histoire qui nous emmène aussi bien du côté de l'opéra italien que de la musique concrète, ou que, bien sûr, du death metal, qu'on ne pourra pas du tout évoquer dans son intégralité. Ce sera donc un épisode de la série musicale inspirée, elle aussi, par la Divine Comédie, et comme toujours, absolument pas exhaustive et profondément subjective sur France Culture.
Alors, la Divine Comédie, c'est un des livres les plus connus de l'histoire de l'humanité.
Que les choses soient claires. Hein.
Vous êtes devant une telle œuvre d'art, un tel monument de la pensée humaine, que de toute manière, ce simple fait suffit à créer une modernité toujours renouvelée. Sans rentrer dans l'exégèse du texte, enfin, et la beauté absolue de ce texte, qui est quand même, en plus, presque arithmétiquement parlant, un prodige. Donc la Divine Comédie, c'est ça. C'est une expérience que vous pouvez relever et pointer sur beaucoup d'aspects du monde contemporain, mais sa simple beauté formelle, son extraordinaire et extrême beauté, vous saisit, quoi. Mais c'est un texte qui ne cesse pas de vous échapper en permanence, mais en même temps qui est toujours renouvelé. C'est-à-dire vous lisez un chant, deux chants, trois chants, vous relisez les mêmes. Tout d'un coup, vous avez l'impression de lire d'autres chants et quelque chose relève un peu de, si je puis dire, de l'excavation, quoi.
Pascal du Sapin, compositeur qui s'est attelé à cette vaste quête, produire un opéra à partir de cette divine comédie. Une divine comédie pensée, écrite par un Dante en exil, dont la complexité, l'écho, l'aura dans le monde entier ne s'est jamais obscurci. Nel mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la dirita vi era smarita. C'est le début de ce texte, un texte qu'évidemment vous goûterez bien mieux si vous parlez, si vous lisez l'italien, mais que vous pouvez goûter quel que soit le lieu où vous vous trouvez. Étant à mi-chemin de notre vie, je me trouvais dans une forêt obscure, la route droite ayant été gauchie. À combien on parlait choses dures de cette forêt, et âpre et drue, qui à nouveau un effroi me procure, si aigre que la mort l'est à peine plus. Mais pour traiter du bien que j'y trouvais, je parlerai des choses que j'ai vues. Dante qui, à ce moment de sa vie, au milieu de sa vie, alors que la voie droite de sa vie, alors ça donne lieu à beaucoup de gloses évidemment, va descendre dans une forme de songe vers les enfers, créant dans ce texte une cosmogonie complètement délirante, avec une notion, la Terre est au centre du monde. Il y a autour d'elle 9 cieux, les 7 cieux des planètes, le ciel des étoiles fixes, la première mobile. Au-delà se trouve l'Empyrée, le diable est au centre de la Terre. Il y a 5 premiers cercles extérieurs à la cité de Dithée, 4 derniers cercles à l'intérieur de la même cité de Cée. Le début du premier livre de la Divine Comédie, L'Enfer, sans doute celui qui a le plus inspiré en musique, vous l'entendez ici, dans la Dante symphonie que compose Franz Liszt. Elle est jouée pour la première fois en 1857, ça fait en réalité plusieurs années, bientôt une vingtaine, que le compositeur romantique tourne autour de l'idée d'adapter dans ce fameux mouvement des romantiques qui ont fait beaucoup de suites illustratives comme une espèce de bande originale d'un texte. Cette œuvre de Dante, alors il va s'en tenir à l'enfer et au purgatoire, n'évoquera pas le paradis. Liszt, qui est le premier sans doute à fonder cet acte d'adaptation musicale de cette sensation finalement que procure la lecture d'un texte qui est à la fois poétique, philosophique. Il ne sera évidemment pas le seul. 2 ans avant l'arrivée au répertoire de l'Opéra de Paris de ce nouvel opéra composé par Pascal du Sapin, Il Viaggio Dante, on avait déjà vécu en réalité une adaptation de la Divine Comédie de Dante par un compositeur contemporain qui était aussi entré au répertoire de l'Opéra de Paris. C'est en fait un ballet intitulé The Dante Project, composé par un compositeur qui portait un nom tout indiqué, puisqu'il s'appelle Thomas Hadès, du nom presque du dieu des enfers en grec. Une composition, un ballet qui a été très remarqué. C'était des premières fois depuis en fait les années plutôt 60 et 70 qu'on tentait comme ça une adaptation dans une maison d'opéra de ce texte immense par sa dimension. Thomas Hadès qui explique que quand il a découvert la Divine Comédie, c'était la chose la plus spectaculaire pour lui jamais écrite, avec une sorte de portée autobiographique. Il formait, je trouve, une sorte de portrait de moi en compositeur, ces livres, en même temps qu'une représentation du monde dans ses réalités les plus extrêmes. Inévitablement, quand on adapte la Divine Comédie, on finit toujours par ouvrir quelques fenêtres sur sa personnalité. Ce qui est épatant quand on compose, c'est que l'imagination permet de sauter tout naturellement d'un extrême à l'autre. La liberté de Dante est insolente, ne fût-ce que dans l'espace-temps de son œuvre. Étant ça, elle est profondément moderne.
Thank you.
Un extrait du projet Dante, composition de Thomas Hadès pour un ballet. On est en train de passer ici du purgatoire au paradis, comme vous l'entendez, des couleurs extrêmement belles et surtout une espèce de sens de la circonvolution, puisque tout est cercle dans la Divine Comédie, cercle qui monte, qui descend, cercle plus ou moins tendu. Car qu'est-ce que la Divine Comédie pour ceux qui en auraient une image peut-être justement dans les limbes? Le récit se situe en 1300, on est au début du mois d'avril et dans une longue nuit de pleine lune, Dante se voit, durant son sommeil ou éveillé, la question reste évidemment entière, sortir d'une forêt obscure et chercher à gravir une montagne où trois bêtes le terrorisent. Soudain, il rencontre une forme impalpable qui lui propose de l'aider à fuir son angoisse et va l'emmener dans une direction inconnue afin de lui faire accomplir un autre voyage. Cette ombre, c'est celle de Virgile, poète latin, que Dante, en tant que jeune poète toscan, qui participe à un mouvement poétique du style nouveau, a beaucoup lu, qui est sa grande référence antique. Le voyage qu'ils vont faire ensemble est d'abord une descente en enfer, ils vont tourner de droite à gauche par 9 cercles concentriques, puis monter autour des 9 corniches de la montagne du Purgatoire, en tournant cette fois de gauche à droite, dans l'autre sens, avant d'arriver au sommet où se trouve le paradis terrestre, lieu de passage essentiel. Au-delà se trouve l'espace céleste. Alors Virgile ne peut pas venir avec lui. C'est Béatrice, la femme aimée, la femme sublimée, dont il avait déjà parlé dans son premier grand ouvrage, La Vita Nuova, qui va le guider à travers Le paradis, cette longue visite au royaume des morts va modifier Dante à jamais. Tout au long de ce très long voyage, il va croiser une multitude de personnages, des philosophes qu'il a lus, à des personnages légendaires, qu'ils soient damnés en train de se purger de leurs fautes, ou qu'ils soient bienheureux, anges. Ils peuplent ces neuf ciels qui conduisent jusqu'à l'Empyrée. Comment adapter une telle œuvre en opéra? C'est la question, évidemment, épineuse à laquelle Pascal Dussapin s'est retrouvé confronté avant de choisir cette idée finalement beaucoup plus biographique et beaucoup plus libre dans un livret qui finalement est très resserré, un livret conçu par Frédéric Boyer où on suit Dante, jeune puis adulte, et quelques-uns de ses guides, Virgile, Lucia et Béatrice.
Moi je voulais traiter les trois livres, l'Enfer, le Purgatoire et le Paradis. Mais de là à faire un opéra là-dessus, inimaginable. Vous avez 500 personnages, vous avez la folie de faire un opéra là-dessus, vous n'en finirez jamais. Vous ferez un opéra de, je sais pas, de 3 semaines sans discontinuer, quoi. Donc il fallait traverser ce texte et non pas raconter une autre histoire, mais créer une possibilité de retrouver un mouvement, celui de Dante dans son voyage, mais en le caractérisant de façon particulière et exclusive, tout en respectant, je dirais, le voyage initiatique des trois livres. J'ai bâti en quelque sorte un orchestre vocal. C'est-à-dire que je voulais un chœur, mais qui contamine l'orchestre. Pour cette raison, j'ai mis le chœur dans la fosse. Donc j'ai dû prendre un orchestre un peu plus ramassé, au lieu d'avoir, disons, 70 musiciens, j'en ai 40. Tout à coup, m'a été donnée la possibilité de créer, en fait, une prière. En quelque sorte, invertir la question de l'opéra sur la question de la messe. Et de ce que j'aime appeler l'opératorio. Quand on compose un orchestre, ça c'est un moment très que j'adore toujours quand je commence un projet, j'aime bien le caractériser quelquefois, en particulier à l'opéra, avec des instruments un peu exogènes. Le son de l'orchestre, il est toujours entre une sonorité, disons, traditionnelle de l'orchestre symphonique, mais il est coloré par ces deux instruments et l'orgue. Et le glas harmonica de façon très particulière et pour le coup de façon très théâtrale.
Thank you.
printemps 1837, 20 ans avant la Dante symphonie composée par Liszt. Liszt a déjà en fait été soumis à l'influence de Dante. Il compose cette fantasia quasi-sonate, cette fantaisie presque sonate, intitulée Après une lecture de Dante, une sonate pour piano en un seul mouvement qu'on peut en général exécuter qui dure entre 15 et 20 minutes, que vous avez entendu ici sous les doigts incroyables d'Alfred Brendel, qui est considéré, on peut le dire, comme l'une des pièces de piano les plus difficiles du répertoire, et qui, en réalité, c'est ça qui est très intéressant, ne va en fait garder qu'une impression de lecture de cette Divine Comédie de Dante. On n'est pas sur une illustration presque littérale, comme il le fera plus tard dans sa Dante Symphonie. On a seulement deux mouvements thématiques liés. Une introduction de la sonate qui va ensuite revenir selon un second thème. Et ce premier thème que vous avez entendu, chromatique, il essaye de donner à entendre les lamentations des âmes dans les cercles des enfers. Juste avant, vous entendiez un extrait justement de la partition composée par Pascal Dussapin pour cet opéra, Il via Gio Dante. Vous entendiez ce qu'il disait, c'est-à-dire ces chœurs qu'il a placés dans la fosse d'orchestre, cette voix des damnés qui va transcender, trouver ces couleurs assez folles qui nous donnent la sensation que nous sommes effectivement dans un rêve. Alors, nous avons ici plusieurs, en réalité, approches de ce texte. Qu'est-ce qu'on fait face à un texte pareil? Est-ce qu'on essaye d'en faire une traduction plus ou moins littérale qui évoque des passages concrets du livre, comme le faisait Liszt? Est-ce que on va choisir de ne retenir finalement que la partie voyage initiatique, c'est ce que fait l'opéra de Pascal Dussapin, ou simplement de donner une impression de lecture, comme le fait un jeune Liszt, pas si jeune, dans cette « Après une lecture de Dante ». Thomas Hadès, lui par exemple, a choisi des couleurs qui sont effectivement très particulières, assez modernes, vous l'avez entendu dans l'extrait de The Dante Project, mais qui sont très proches en fait de ce qu'avait fait Liszt dans la Dante Symphonie. En réalité, il ne s'en cache pas, Thomas Hadès idolâtre Liszt. S'il écrit cet opéra sur Dante, c'est parce qu'il a l'impression que lui-même peut se faire un autoportrait de lui en compositeur et qu'il peut aussi revendiquer le lien, la continuité avec Liszt, exactement comme Dante le faisait en écrivant sa Divine Comédie, en revendiquant cette influence de Virgile qui devient son guide, son ami, dans les pas duquel il finit par écrire. Virgile qui était déjà descendu aux enfers, rappelons-le. Effectivement, on est toujours dans une question de posture, quoi retenir ? Une impression de lecture, c'est ce que faisait Liszt dans un premier temps. Une impression de lecture, c'est ce que va proposer aussi un groupe important, un groupe de métal qui s'appelle Iced Earth, c'est-à-dire glacé. Déjà, on est sur un nom qui évoque très largement les questions de la cosmogonie dantesque et qui va sortir un titre extrêmement long, le plus long de sa très grande discographie en 1995. Il s'appelle L'enfer de Dante, 15 minutes de métal, extrêmement bien pensé pour livrer une impression dantesque. We'll be right back. Iced Earth et son Dante's Inferno, l'un des groupes de heavy metal les plus importants. Hein. On est en Floride, à Tampa. Qu'est-ce que ces musiciens peuvent trouver dans le texte de Dante? Beaucoup de choses, puisque d'ailleurs, avant de s'appeler Iced Earth, ils se sont appelés The Rose, puis le Purgatoire. Dans tous les cas, la lecture de Dante a été assez déterminante dans leur approche de la musique. Ce n'est pas les seuls, et on va le voir, dans le métal, à s'intéresser à ce texte. Qu'est-ce qui fait que ce texte, qui a aujourd'hui, on l'a dit, 704 ans, peut encore être lu alors que son approche semble parfois ardue? Il s'agit de poésie, une poésie avec une métrique implacable. Quand on lit en italien, peut-être est-ce plus facile. Les traductions, elles, ont beaucoup de mal à rendre parfois la sincérité, la beauté, justement la nouveauté d'un texte de Dante, qui néanmoins était profondément moderne, évidemment, au moment où il fait ce geste absolu de poser cette comédie, qu'on appellera ensuite divine. Comme le racontait Jacqueline Risset, en fait, sa langue elle-même, non seulement est moderne, mais profondément musicale, en ce qu'elle crée des échos, des formules, des idées, des sons qui, pour l'époque, étaient absolument nouveaux et peuvent encore aujourd'hui le rester.
Il est allé très loin. Il a quelquefois des techniques qui sont des techniques de poète archi-moderne. Disons, un travail de la langue qui est joycien, disons. Ça n'est pas d'ailleurs un hasard si Joyce l'a considéré comme son maître. C'est vraiment Finnegan's Wake par moment. C'est-à-dire qu'il y a un travail, un jeu sur la langue, sur le non-sens même de la langue. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que Dante explore tous les à-côtés, c'est-à-dire ce qui est son dans la langue. C'est quelque chose qui le passionne. C'est-à-dire la possibilité de faire entrer d'autres langages à l'intérieur de la langue. C'est-à-dire, si, oui, il fondait la langue italienne, mais en même temps, en y faisant entrer toutes les langues.
Ainsi que tourne une dame qui danse, les pieds joints et glissant sur le sol, faisant à peine un pas devant l'autre, sur les fleurs d'or et sur les fleurs vermeilles, elle se tourna vers moi, comme une vierge qui baisse ses yeux modestes. Et me dit, mon frère, regarde et écoute.
Incroyable François Bayle, un homme dont vous ne connaissez peut-être pas assez le nom, musicien qui, après avoir suivi les cours d'Olivier Messiaen et de Pierre Schaeffer, le fondateur de la musique concrète, va devenir un membre éminent de cette institution démentielle qui a tant donné au monde, le groupe de recherche musicale, le GRM, qui encore aujourd'hui fleurit au sein de Radio France, au sein duquel il va tenter et découvrir toute une foule de nouveautés sonores. Une contribution majeure, c'est celle de la création de l'Acousmonium, un orchestre de haut-parleurs associé avec des instruments de pilotage qui permet de régler la spatialisation des sons. Il va devenir l'un des chefs de file de ce qu'on appelle la musique acousmatique. Et vous entendez ici une tentative absolument géniale qui date de 72 d'adapter le Purgatoire de la Divine Comédie de Dante. Vous entendez, on conserve une partie du texte, mais surtout on essaye de se plonger dans une atmosphère sonore. Cette atmosphère sonore, elle vient presque à l'esprit quand on lit le texte de Dante, tant il est question de grottes. D'ailleurs, à ce moment-là de sa vie, Henri Bayle a découvert la spéléologie. Il explique que justement, il met en rapport le choc que fut la découverte de la Divine Comédie pour lui avec le choc que fut son séjour spéléologique à Jaïta parmi les formes fantastiques de la réalité souterraine. On vous invite à découvrir cette œuvre au disque ou ailleurs, pas étonnant. Évidemment, que la Divine Comédie, au regard de ce que nous disait Jacqueline Risset sur la modernité du texte et des sons que, concrètement, la lecture de Dante, si on le fait à voix haute, peut et doit procurer. Rien d'étonnant donc à ce qu'il ait inspiré, évidemment, des évocations plus ou moins littérales à, notamment, de grands noms de la musique électronique à l'occasion des 700 ans de la Divine Comédie en 2021. Toute une série d'artistes se sont regroupés pour justement illustrer, ou en tout cas composer sur des épisodes de l'enfer. On vous donne à entendre ici l'interprétation de Walt Disney d'un épisode fondamental, hein, évidemment, des enfers. C'est la dernière partie, l'une des plus violentes de cette descente aux enfers, celle où Dante va rencontrer ceux qui ont trahi, les traîtres, ce sont les pires, ceux qui ont trahi leurs bienfaiteurs. Et parmi eux, il va rencontrer évidemment le plus traître d'entre les traîtres dans une cosmogonie et dans une tradition catholique. J'ai nommé Judas. Évidemment, les artistes de musique électronique dans cet album qu'on vous invite délicieusement à découvrir, un album où se retrouvent certains des plus grands noms, sont très inspirés par Dante, notamment parce que le texte est régi, on l'a dit, par toute une logique mathématique. Il y a trois bêtes terrifiantes, trois espaces à parcourir, neuf cercles, neuf corniches, neuf ciels. Les chiffres 1, 3, 9, 10 et leurs multiples sont déclinés, évidemment pas au hasard, par Dante. Rappelons que chacun des trois règnes comporte 33 chants, et que chaque chant est composé de vers de 11 syllabes qui vont toujours par trois. C'est en réalité une forme poétique que Dante a piquée aux troubadours provençaux. C'est ce qu'on appelle la tierce rime, et c'est sans doute ce qui donne la musicalité, l'impulsion de ce texte de Dante en italien, et qu'il est très difficile de rendre en traduction, absolument pas sûr que les gens qui ont lu Dante en anglais ou même en français aient eu droit finalement à l'incroyable, va dire, pouls que ce texte porte en lui-même. Danielle Robert, immense poète et traductrice, nous a livré en 2021 une traduction de la Divine Comédie qui arrive à reproduire cette tierce rime en français. C'est pour ça qu'on vous invite à découvrir ce texte. Écoutez-la justement sur la musicalité dantesque.
Il a choisi ce système qui existait de façon un peu embryonnaire avant lui, chez les troubadours, mais qu'il a vraiment porté à son apogée et qu'il a surtout fait tenir sur 14 233 vers. Et c'est un système rythmique et rimique qui lui permet de donner une impulsion constante au récit. Et ce jeu de trois rimes, dont la première et la troisième d'une strophe vont ensemble, mais le second vers, lui, entraîne deux rimes qui sont dans la strophe suivante en position 1 et 3. Le vers 2 de cette strophe étant à son tour un entraîneur de rimes pour la strophe suivante, cela permet, lui permet d'éviter la monotonie, de donner une sorte de faire une sorte de moteur à tout son texte, et c'est ce qu'il veut. Et tout le récit va être celui d'une marche, une descente puis une montée. Dante et son compagnon Virgile et tous les autres personnage qu'il rencontre marche constamment.
La beauté presque transcendante de la voix de Nanette Repko dans cet air de Francesca, dans l'opéra Francesca da Rimini, composé par le russe Rachmaninov. Alors, on a entendu ici plusieurs approches, plusieurs transcriptions possibles de ceux qui se contentent d'une impression de lecture, de ceux qui vont adapter presque littéralement un passage, un chant. C'est le cas de Walt Disney sur la Giudecca, de François Bayle, qui va, dans sa transcription du Purgatoire, reprendre le texte d'Antien. Il est évidemment d'innombrables compositeurs de musique d'opéra, mais notamment surtout d'italien, qui vont se pencher sur certains épisodes narrés, notamment dans Les Enfers, puisque c'est la partie où on rencontre presque le plus de personnages, et notamment ce personnage très romanesque de Francesca da Rimini, une femme toscane que son mari a surpris avec son amant, un amant qu'elle n'avait fait sans doute qu'à peine embrasser et qui est assassiné, un épisode qui marque beaucoup, qui va être adopté à l'opéra par toute une foule de compositeurs italiens qui gardent des parties du texte de Dante. Mais on est très ému, nous, par cette version en russe de Rachmaninov. Rachmaninov qui, avec Dante, partage justement cet amour des chiffres, lui qui a beaucoup composé d'opéra avec des chiffres cryptés pour passer des messages, notamment à la fin de sa vie. Rachmaninov qui, ici, dans ce Francesca da Rimini, donc lui, disons, conserve, on peut dire, quelque chose de très dantesque dans la gestion de l'orchestre symphonique. Alors la tentation d'adapter presque intégralement cette œuvre, elle est très forte chez bien des musiciens, des musiciennes qui veulent faire acte de grande œuvre. C'est le cas par exemple pour le groupe Tangerine Dream qui, au cours de 3 très longs albums, vont adapter les 3 livres de la Divine Comédie dans des versions qui sont parfois un peu surannées, qui ont parfois un peu vieilli. On peut évoquer des gens qui auront une autre approche. On n'est pas sur une impression de lecture, on n'est pas sur une transcription littérale, mais plutôt sur, comme ils le disent eux-mêmes, une bande originale. La bande originale de cette Divine Comédie, c'est le groupe de rock, de death metal brésilien-américain Sepultura qui va se lancer dans cette entreprise avec un album entier consacré à la Divine Comédie, Dante 21 en chiffres romains, extrait avec ce titre, Ostia.
The skies are open before me. The crowd of souls in sudden flight. Open for breath in the world. They repented, no escape from them.
Ostia, un extrait de cet album Dante 21 dans lequel le groupe Sepultura imagine en fait d'ici une bande originale pour la lecture de cette œuvre, une œuvre qu'ils respectent profondément et qui les a aidés à vivre, à tenir, disent-ils, respectant justement un Dante qui poursuit un chemin solitaire en exil du lieu qu'il aime, puisque Dante a été exilé de sa ville natale, Florence, pour des raisons essentiellement politiques. Et cette forme d'amour, d'amour qui le porte, l'amour, c'est celui de Béatrice, cette femme qu'il a rencontrée alors qu'il avait 9 ans, qu'il ne reverra que 9 ans plus tard, d'où l'importance d'ailleurs de ce chiffre et qui est son guide, qui est l'incarnation à la fois de l'amour absolu, de la belle dame dans la tradition de l'amour courtois, mais aussi finalement de cet amour profond qui unit à Dieu, à la foi, à notre nature humaine. Ce qui est intéressant, c'est que, au-delà des adaptations plus ou moins directes, des références plus ou moins directes à Dante, il y a des auteurs, compositeurs, des autrices, compositrices, qui vont garder de Dante plutôt la structure et chez qui on peut retrouver derrière une œuvre qui semble apparemment très populaire, un geste dantesque. C'est le cas du chanteur-compositeur américain The Weeknd, canadien, pardon, The Weeknd, dont le titre Blinding Lights, que vous connaissez fatalement, est issu de son deuxième, de son quatrième album, After Hours, un titre qui a été pendant longtemps le single le plus écouté de tous les temps sur Spotify, ou qui semblait faire référence à son histoire d'amour avec une mannequin très célèbre, Bella Hadid. Cette chanson, vous l'avez fatalement entendue dans des publicités. Et pourtant, si vous l'écoutez un peu, vous pourrez regarder qu'elle est écrite dans la tonalité de Fa mineur en mode dorien, avec un tempo à 170 battements par minute, qu'il a des vers échelonnés à son refrain qui sont pleins de tension et qui, justement, a beaucoup travaillé le profil de mathématiques mélodiques pour lesquelles Max Martin, qui est justement le compositeur de cette chanson, est très très réputé. Sachez que ce deuxième album, ce quatrième album, comme celui qui le précédait, celui qui le suivra, sont décidément inspiré par la trilogie dantesque. Une autre manière d'écouter ce morceau, Blinding Lights, lumière aveuglante en français, qui semble tout droit sorti, soudain, finalement, d'une lecture d'art naissance. Revisiter la discographie de The Weeknd à l'aune de cette information. C'est bien Dante qui l'a inspiré. À découvrir aussi le troisième album studio du musicien irlandais Hozier, Unreal on Earth, qui est aussi directement inspiré de l'enfer de Dante. Et puis aussi d'évoquer, peut-être d'écouter, de jeter une oreille à l'album de John Frusciante, Et à son titre Heaven qu'on n'a pas pu vous passer, merci beaucoup à Laura Dutèche-Pérez, l'attachée de production de la série musicale, à Thomas Jost, son réalisateur, et à l'incroyable Ludovic Auger qui travaille en ce moment après une lecture de Dante de Liszt et qui est, on en est sûr, un pianiste aguerri. Merci et à la semaine prochaine.